Retrouvez chaque samedi 10h sur Radio Sofia et Altitude l'émission Justice et Paix, animée par Domi.
École, catéchisme à Sainte-Rose même.
Oui, nous étions au catéchisme au bout le mardi.
Une émission en partenariat avec Radio Bain-Sabiel. Justice et Paix donne la parole au monde associatif, politique, social, sportif, culturel.
Je crois qu'il faut quand même que on puisse remettre l'agriculture aux mains des enfants.
Le sport est un vecteur de relations sociales.
Justice et paix, les problématiques sociétales avec une vision chrétienne.
Mais aussi marcher aussi vers Dieu, marcher vers un idéal, marcher c'est un but.
Bonjour à vous qui êtes à l'écoute de cette nouvelle émission de la Commission diocésaine Justice et paix. Dominique Mugerin avec vous. Il y a quelques semaines, à la salle paroissiale de Saint-Luc de Mainbridge, une belle conférence débat sur la Guadeloupe dans la Caraïbe, passé, présent, futur, avec comme intervenants M. Fred Reynaud et M. Julien Mérillon. Ce fut un très bon moment de partage et nous vous invitons à écouter attentivement ce qui a été dit ce jour-là. Émission qui sera faite sur deux ou trois volets, car cette conférence débat était vraiment très intéressante et il y a eu tellement de choses à dire que nous ne pourrons pas tout dire avec une seule émission.
Frères et sœurs, bonjour. Nous remercions messieurs Fred Reynaud et Julien Mérillon de nous consacrer ce matin un peu de leur temps pour nous aider à réfléchir sur la Guadeloupe dans la Caraïbe, hier, aujourd'hui et demain, et comment nous pouvons avancer ensemble. Tout au long de ce temps pascal, nous aurons à découvrir comment le Christ fait route avec nous, même si souvent nous ne le reconnaissons pas, comme les disciples sur la route d'Emmaüs. Il est toujours à nos côtés dans les moments sombres et lumineux de notre vie. Laissons-nous rejoindre par lui, par sa présence qui rend nos cœurs brûlants de foi, en disant ensemble, notre Père qui es aux cieux. Et à Marie, sa mère, qui gardait tout dans son cœur, disons ensemble,
je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nos péchés.
Merci à vous tous d'être avec nous. Bonne matinée.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence organisée par la Commission Justice et Paix. Et nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir comme intervenants deux éminentes personnalités universitaires. Julien Mérillon, il est fondateur du CORECA, Coopération Régionale Caraïbes, et qui a été à l'Université Antiguyane. Et puis à ma droite, nous avons celui qui est encore à l'Université Antiguyane, Fred Reynaud, président du CAGI, Centre d'analyse géopolitique internationale. Et ces deux éminents universitaires vont nous présenter ce sujet qui nous touche toutes et tous, la Guadeloupe dans la Caraïbe. Le passé, le présent, le futur, l'avenir. Le plan, c'est la présentation du sujet. Ensuite, le débat, un échange entre nous. Au terme de ce débat, s'il y a des gens qui veulent faire part de leur expérience, témoigner de leur expérience ou de ce qu'ils savent, ils pourront le faire. Et ensuite, Albert Blanchard terminera par une intervention. Fred Reynaud va commencer son intervention et ensuite il passera la parole à Julien Mérillon
Merci Robert et bonjour à toutes et à tous. Je remercie la commission diocésaine du CEPA. Je vais essayer de vous présenter, alors non pas la Guadeloupe dans la Caraïbe, ce n'est pas le sujet précis que je vais aborder. L'ensemble de nos interventions renviera à ça. Moi, je vais essayer d'être très simple et pas trop long. Je vais vous présenter ce qu'on définit comme la Caraïbe. Qu'est-ce que la Caraïbe ? Je me retrouve dans une ambiance que je connais bien, l'Église, parce que lycéen, j'étais à la GEC, jeunesse étudiante chrétienne, je suis dans la Martinique, et c'est grâce à la GEC que j'ai connu la Guadeloupe. La première fois que j'ai vu la Guadeloupe, c'est par la GEC, avec le père Pierre-Alex Zonzon. Je suis des vôtres. Mais je vais ajouter, après mes différentes aventures en France comme enseignant, je suis revenu en Guadeloupe. Ça fait plus de 30 ans que je suis là. Vous voyez, donc mon premier séjour en Guadeloupe m'a amené à aimer ce pays. Je l'ai adopté. Quand on parle de la Caraïbe, il faut bien préciser de quoi on parle. Le plus simple en général, c'est la référence à la mer des Caraïbes. On considère que la Caraïbe, c'est un ensemble de territoires qui sont situés dans la mer des Caraïbes. Ces territoires sont bordés au sud par l'Amérique du Sud, au sud-ouest par l'Amérique centrale et au nord-ouest par les États-Unis. Quand vous verrez l'image, c'est un arc de cercle qui est assez long, qui va de Cuba jusqu'à Aruba. On le verra sur la carte. Voilà ce qu'on appelle plus précisément la Caraïbe insulaire, la Caraïbe faite d'îles. La Caraïbe est perçue déjà comme une série d'îles. Je reviens à ma première diapo. Caraïbe insulaire, mais également Caraïbe continentale. Quand on dit Caraïbe, on ne voit que les îles. Non, la Caraïbe, c'est beaucoup plus large. C'est aussi une partie du continent. Dans la Caraïbe insulaire, il y a ce qu'on appelle les Petites Antilles. Guadeloupe, Martinique sont dedans. C'est un chapelet d'îles qui va des îles Vierges à la Grenade. Et puis il y a les Grandes Antilles. Les Grandes Antilles sont Cuba, Jamaïque, Haïti et République Dominicaine et Porto Rico. Les Grandes Antilles sont la partie la plus importante de la Caraïbe insulaire. Cuba, c'est le territoire le plus important des Grandes Antilles et des Antilles en général. Cette partie dite Grandes Antilles, elle est tellement importante qu'elle représente 9 dixièmes de la superficie et de la population des Antilles en général. On considère que la Caraïbe continentale, c'est l'ensemble des pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud qui sont baignés par la mer des Caraïbes. Mais ce n'est pas une définition suffisante. Moi, j'ai mis à côté mer des Caraïbes et histoire coloniale. Je vais vous dire pourquoi. Vous voyez que tous ces territoires-là sont baignés par la mer des Caraïbes. Mexico, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombie, Venezuela sont de la Caraïbe. On ne le sait pas, mais ces territoires sont de la Caraïbe. Ce n'est pas une fiction. Il y a même une association des États de la Caraïbe dont le siège est à Trinidad et qui regroupe tous ces pays. Ces pays sont dans la Caraïbe. Donc quand on dit que la Caraïbe c'est une petite espace, ce n'est pas vrai. La Caraïbe c'est grand, on ne le sait pas. C'est plus important qu'on ne le dit. Pourquoi je dis mer des Caraïbes et histoire coloniale pour définir la Caraïbe continentale? Sur cette carte, il y a tous ces pays qui sont baignés par la mer des Caraïbes et qui sont dans la Caraïbe. Mais il y a des pays qui ne sont pas dans la mer des Caraïbes, mais qui sont quand même dans la Caraïbe. Je vous donne des exemples. Quand on parle de la Guyane, ce n'est pas dans les Antilles. Mais quand on parle de Guyane, on parle de la Guyane comme étant un pays de la Caraïbe. La Guyane, le Guyana, Suriname, sont des pays de la Caraïbe. Ils appartiennent aux organisations caribéennes. Regardez où ils sont, ces territoires. La Guyane française est là. Le Suriname, qui est la Guyane hollandaise, est là, et le Guyana est là. Ça veut dire que ces territoires sont dans l'océan Atlantique, ne sont pas dans la mer des Caraïbes. Mais historiquement, on considère qu'ils sont dans la Caraïbe parce qu'ils ont subi la même histoire coloniale que nous. Donc on les considère comme étant historiquement dans la mer des Caraïbes. Autre exemple, regardez en haut là, les Bahamas sont dans la Caraïbe, mais ne sont pas dans la mer des Caraïbes. Il y a des exceptions. Ça veut dire que quand on définit la Caraïbe, ce n'est pas facile. Caraïbe insulaire, Caraïbes continentales, mer des Caraïbes, mais histoire coloniale aussi pour définir la Caraïbe. Voilà des critères qui sont différents, qui se cumulent pour définir la Caraïbe. Bon, je continue. La Caraïbe, c'est en fait un ensemble de 44 territoires. La Caraïbe continentale, la partie Amérique de la Caraïbe, c'est Belize, à côté du Mexique. C'est une enclave anglophone dans une partie hispanophone, parce qu'on parle espagnol dans cette région-là, mais c'est une ancienne colonie anglaise. La Colombie, le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, le Guyana, la Guyane française, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, Suriname et Venezuela sont des pays qui se disent caribéens. Alors peut-être pas autant que nous, mais ils ont une façade caribéenne et ils sont dans des organisations caribéennes. Je ne vais pas vous citer tous les pays de la Caraïbe insulaire. Il y a 31 pays. Alors bien sûr, quand je dis pays, je ne parle pas des îles qui sont dans les archipels. Je ne vais pas vous citer Marie-Galante ou les Saintes. Parce que quand on dit Guadeloupe, ça intègre tous ces territoires-là. Mais regardez une chose. J'ai mis en rouge deux catégories d'îles que je n'aurais pas citées avant. Quand on citait Guadeloupe, on ne citait pas Saint-Martin et Saint-Barthélemy. C'était des communes de la Guadeloupe. Mais aujourd'hui, quand on dit Antilles, retenez ça, c'est plus seulement limité à la Martinique et à la Guadeloupe. Les Antilles françaises sont désormais définies par Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Pourquoi ? Parce que Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont pris leur indépendance de la Guadeloupe pour avoir une relation directe avec la France. Elles existent non pas comme des communes de la Guadeloupe, mais comme des collectivités d'outre-mer. C'est important. Donc, qui ne dépendent pas directement, en tout cas, de la Guadeloupe. J'ai mentionné également trois autres territoires, Bonaire, Saba, Saint-Eustache. Ce sont des territoires qui sont des dépendances des Pays-Bas, dépendances néerlandaises. Alors pourquoi je les cite ? Parce que ces trois territoires appartenaient avant, avec Curaçao d'ailleurs, appartenaient à ce qu'on appelle les Antilles néerlandaises. C'était une entité, comme on dit, des Antilles françaises. C'était une entité qui existait en tant que telle. Mais depuis le 10 octobre 2010, l'entité a implosé. Chaque territoire a pris son autonomie. Ils ne forment plus partie d'un ensemble commun. Mais chose importante que j'ajoute, qu'on ne sait pas, je vous le dis à vous, Bonaire, Saba, Saint-Eustache ont une histoire très singulière. Ils étaient des territoires dans une Antille néerlandaise qui était regroupée. Ils se sont séparés, mais sont devenus des municipalités du Royaume des Pays-Bas. Nous sommes des départements français. Eux, ils sont devenus des municipalités du Royaume des Pays-Bas. On ne sait pas. On ne sait pas, mais on a tort de ne pas le savoir. Je dis pourquoi. Ce sont des territoires qui sont intégrés désormais au Royaume des Pays-Bas. Ça veut dire qu'ils sont comme nous, ou ils vont devenir comme nous, en termes de relations aussi avec l'Union européenne. Ce seront à terme, ils ont déjà fait la demande, des régions ultra-périphériques de l'Europe, après tout, puisqu'ils sont intégrés dans l'espace des Pays-Bas. Les Pays-Bas sont un pays de l'Union européenne. Donc ça veut dire pour là que nous aurons peut-être à partager les fonds européens avec eux, à terme. Je ne suis pas sûr que l'Europe va augmenter de manière particulière des fonds, mais je veux dire par là que ce sont déjà nos alors, je ne dis pas concurrents, mais en tout cas, on sera ensemble. On sera ensemble. Quand on met à côté toutes ces îles, plus la partie américaine, on a la Grande Caraïbe. C'est ça la Grande Caraïbe. C'est l'addition, si on veut, des îles, des Grandes Antilles, des Petites Antilles et de la Caraïbe continentale. C'est ça la Grande Caraïbe. Alors maintenant, un peu d'histoire pour passer un deuxième point. Après la géographie, on passe un peu à des considérations historiques. La Caraïbe, en fait, n'est pas un bloc homogène. C'est pourquoi on a du mal à dire la Caraïbe. Alors c'est vrai que quand on dit la Caraïbe, c'est parce qu'on veut mettre l'accent sur l'unité qui existe. Unité sur le plan culturel, unité sur le plan historique, unité sur peut-être le destin, qui sait. Et aussi unité sur le plan géographique. Nous sommes dans le même espace. Mais attention, nous sommes proches, parfois même ressemblants sur bien des points. Nous avons des trajectoires historiques différentes. Nous avons connu des développements, des évolutions différentes. On n'a pas les mêmes évolutions, même si on est très proche. Pourquoi ? Parce que la Caraïbe a connu plusieurs colonisateurs, plusieurs colonisations européennes. Vous avez d'abord les Espagnols. Les Espagnols qui ont soumis les indigènes, donc les Amérindiens qui étaient là, les Africains. Vous avez les Portugais qui ont colonisé aussi, je pense au Brésil en particulier. Alors, pourquoi aussi les Portugais ? Parce que les Portugais, ils vont servir d'exemple en réalité. Même s'ils ne sont pas dans la Caraïbe, ils servent d'exemple à la France et à l'Angleterre dans l'organisation du commerce négrier et dans l'organisation du système esclavagiste. Donc voilà, Espagnols, Anglais, Français, Pays-Bas, ce sont les principales puissances coloniales qui vont intervenir dans la Caraïbe. L'esclavage, je ne vais pas revenir dessus, je pense qu'on a suffisamment d'informations. C'est un système, comme vous le savez, qui est profondément déshumanisant. Quand j'interviens auprès de mes étudiants, j'évite même de leur montrer des images, tellement c'est insupportable. Des supplices, des mutilations, des meurtres. Juridiquement, ça a été légitimé. L'esclavage était légitimé juridiquement par le Code noir de mars 1685, avec malheureusement la complicité de l'Église catholique. Ça, l'Église a fait son mea culpa, l'a reconnu. Ça, c'est l'histoire, on ne peut pas l'ignorer. Le Code noir est resté en vigueur de 1685 jusqu'à 1848. jusqu'à l'abolition. Voilà ce que dit le Code noir vers l'essentiel. Hein. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, pour maintenir en nos îles de l'Amérique la discipline de l'Église catholique, apostolique et romaine, pour y régler ce qui concerne l'État et la qualité des esclaves dans nos dites îles. Vous voyez qu'il y a une association entre l'État et l'Église, premier objectif, pour organiser et légitimer juridiquement l'esclavage. En 1848, l'esclavage est aboli. J'ai retenu quelques éléments de ce décret du 27 avril 1848 d'abolition de l'esclavage. Article 1er, l'esclavage est entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises au nom de l'égalité, de la liberté, de la fraternité qui est le mot d'ordre de la République. Pourquoi on abolit ? Parce que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine. Il supprime le principe naturel du droit et du devoir. Il est une violation flagrante de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Mais j'ajoute un article 5 qu'il ne faut pas non plus ignorer et qui est d'une grande actualité. Article 5, l'Assemblée nationale réglera l'indemnité accordée aux colons. Alors pourquoi j'insiste sur ce point ? Parce qu'on comprend mal que les tortionnaires soient indemnisés et pas les victimes. Ceux qui ont souffert, ce sont d'abord les esclaves. Donc je pose la question parce qu'aujourd'hui il y a un débat qui divise hein, sur la question des réparations. Mais il vient de là, ce débat. Si on indemnise les colons, pourquoi ne pas indemniser les victimes ? Ça paraît légitime. C'est de la justice, de l'équité, de la justice en tout cas. Mais la question est posée et elle est juste comme question. Avant même les abolitions, il y a des pays dans la Caraïbe, au moins un, qui était déjà indépendant, c'est Haïti. Haïti, premier État indépendant de la Caraïbe en 1804. D'autres territoires hispanophones vont suivre. Cuba. 1898 et avant Cuba, la République dominicaine en 1844. Et puis, il y a les pays anglophones, au moins une bonne douzaine de pays anglophones qui seront indépendants successivement. Premier pays à être indépendant, la Jamaïque. Trinidad en 62, comme la Jamaïque. Barbade en 66. Le Guyana en 1966. Voilà les premiers pays qui sont devenus indépendants. Et puis, vous avez des pays qui ne sont pas indépendants, qui sont non souverains. Ce sont des pays qui sont encore sous tutelle britannique, des pays qui sont sous tutelle néerlandaise. Je vous ai parlé de Bonaire, Saba, Saint-Eustache. On peut ajouter Curaçao, etc. Aruba. Vous avez des dépendances états-uniennes aussi. Alors, je ne dis pas américaines. Hein. Je dis états-uniennes parce que l'Amérique, c'est nous, c'est tout le monde. Les États-Unis ne se confondent pas avec l'Amérique. États-Uniens, états-uniennes, ça existe, hein, je ne l'ai pas inventé. Je ne dis plus l'Amérique parce que l'Amérique, c'est tout le continent. Ce n'est pas seulement les États-Unis. C'est un abus de langage que de confondre États-Unis et Amérique. Donc, dépendance états-unienne, c'est essentiellement Porto Rico et les îles Vierges américaines. Et bien sûr, des dépendances françaises, puisque nous sommes concernés. Et quand on parle d'État anglophone, il faut distinguer deux catégories d'États anglophones, de pays indépendants. Il y a des États anglophones qui se considèrent comme des monarchies et d'autres des républiques. Ça paraît bizarre, hein ? Pour nous, c'est difficile à comprendre, ça. Comment expliquer qu'il y a des monarchies parlementaires indépendantes dans la Caraïbe et en face des républiques parlementaires ? Antigua et Barbuda, Bahamas, Belize, Grenade, Jamaïque, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-Nevis, Saint-Vincent et Grenadines sont des monarchies anglophones. Ça veut dire que la couronne britannique est officiellement le chef de l'État de ces pays, même indépendants. Mais honorifique, hein. La couronne n'a pas d'importance politique, elle n'a pas de poids politique, mais n'empêche que symboliquement, c'est la reine, enfin le roi maintenant, qui est le chef de l'État officiellement. Un chef d'État qui est très effacé, c'est pas comme le chef d'État français. Non, il est très effacé, il est presque invisible. La reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre sont l'exécutif, le chef d'État. Mais attention, sur place, il y a un gouverneur général qui représente la reine ou le roi, comme nous, on a un préfet. Oui, mais n'empêche que ce préfet chez nous, il est très actif. Il est centralisateur même. Alors que là, le chef de l'État, il est effacé. Il est invisible pratiquement. À côté des monarchies, vous avez des républiques. La différence qu'il y a entre la monarchie et la république, dans les monarchies, vous avez le roi, la reine ou son représentant comme chef d'État. Dans la république, ce sont des présidents qui sont désignés sur place. Et parmi ces républiques, il y a notre sœur, la Dominique, à côté, voisine, le Guyana, Trinidad et Tobago, et Barbade qui a franchi le pas récemment, qui est passé de la monarchie à la république. C'est très récent. Donc, quand on fait l'addition des monarchies et des républiques, ça nous fait 12 12 États anglophones. La Caraïbe comporte 12 États anglophones, 12 territoires indépendants. États francophones, c'est Haïti. Cuba et République dominicaine sont les États hispanophones. Les pays qui ne sont pas indépendants, les pays qui sont encore dépendants de la Grande-Bretagne, Anguilla, les îles Caïmans, les îles Turques et Caïques, îles Vierges britanniques et Montserrat. Voilà les îles qui sont encore des dépendances britanniques, comme nous sommes des dépendances françaises. Nous ne sommes pas les seuls à dépendre du territoire européen. Dépendance néerlandaise, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba-Saint-Eustache et Sint-Maarten, que vous connaissez. Partie hollandaise de Saint-Martin. Dépendance états-unienne, Porto Rico, îles Vierges américaines. Et enfin, dépendance française, c'est nous, Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Guyane. J'arrive à la fin, c'est ma conclusion. En fait, je n'ai pas fait autre chose qu'une présentation générale de la Caraïbe. Ça me semble un préalable important. Mais je vais quand même ajouter, et là peut-être Julien ira plus loin que moi, que même si nous sommes différents, nous avons des défis communs. Et par conséquent, une nécessité de solidarité. Défi quant au risque naturel, séisme, cyclone, réchauffement climatique, quand il y a une crise quelque part, quand il y a un séisme comme en Haïti, ou un cyclone qui passe, le Corica est là. Comme on dit, nous avons une solidarité nécessaire en termes d'assistance en particulier. Coopération régionale, il y a aujourd'hui des adhésions. La Martinique et la Guadeloupe adhèrent aux organisations régionales. La Martinique, il y a quelques jours, vient d'être membre associé de la CARICOM, le marché commun de la Caraïbe. Mais nous avons également une adhésion à l'OECS, hein, l'Organisation des États de la Caraïbe. La Guadeloupe est déjà membre. La Martinique est membre du CARICOM. La Guadeloupe n'est pas encore membre du CARICOM. Elle est membre de l'OECS, comme la Martinique. On est également membre de l'AEC. On est également membre d'une organisation qu'on appelle la CEPALC, qu'on ne cite pas beaucoup, la Commission économique pour l'Amérique latine et la Caraïbe, depuis 2012. Nous sommes membres de cette association. Et puis, il y a un risque politique. C'est le plus préoccupant aujourd'hui. Et c'est à côté de chez nous, Sainte-Lucie. On a tué des pêcheurs de la zone. Et il n'est pas interdit, de, malheureusement, de penser qu'un des nôtres soit atteint par les frappes de Donald Trump. Oui. Voilà pour ma conclusion. Je vous remercie.
Vous avez entendu, vous avez écouté, vous avez vu. Maintenant, vous avez la parole pour interpeller, interroger, donner votre avis sur ce que vient de nous donner Fred Reynaud. Oui.
Nous étions du côté de Bainbridge il y a quelques semaines pour une conférence débat avec comme intervenants messieurs Fred Reynaud et Julien Mérillon sur la Guadeloupe dans la Caraïbe. Le passé, le présent, le futur. Comment nous voyons cela? Beaucoup de choses intéressantes ont déjà été dites.
Très bonne question. Non, en fait, si vous voulez, je vous disais que nous, ça nous surprend et ça nous interpelle. Comme expliquer que des pays indépendants aient comme chef d'État le chef d'État d'un pays étranger. Alors, ce pays étranger, il, c'est l'ancienne puissance coloniale. Ce que je veux dire par là, c'est que quand ces pays deviennent indépendants, ce n'est pas contre l'Angleterre qu'ils deviennent indépendants. Il y a un consensus entre l'Angleterre et ces pays indépendants pour qu'ils deviennent indépendants. Si j'avais le temps, je vous ai montré les images de l'indépendance à Barbade, où la reine d'Angleterre est présente. Elle est aussi contente que les Barbadiens. Quand le pays devient indépendant, elle revient pour la fête de l'indépendance. Elle est applaudie, accueillie par des enfants, pour tout le monde. Je veux dire par là que les indépendances dans les colonies britanniques, ce n'est pas l'Algérie française. C'est-à-dire que dans la plupart des pays qui ont été indépendants, il n'y a pas de conflictualité et des guerres d'indépendance. Donc résultat, il y a un consensus qui se fait et puis il y a une continuité qui est assurée. Vous êtes indépendants, on est là avec vous. Mais en cas de difficulté. Et symboliquement, ces pays ont gardé le lien dans le cadre d'un Commonwealth, une espèce d'unité des anciens territoires, où les relations sont cordiales, respectueuses, mais il n'y a pas de conflit entre les deux pays. Donc c'est symbolique. À un moment, ces pays considèrent que même si c'est symbolique, c'est quand même un lien colonial. Symboliquement, c'est un lien colonial. Vous savez, la Barbade, c'est l'île la plus anglaise. On l'appelait « Little England ». La Barbade. Et que fait la Barbade en 2023? Elle décide de passer à la République en disant « Nous voulons rompre le passé colonial, en cassant symboliquement ce lien avec la couronne britannique. Ça change, ça évolue. Ils ont même modifié les noms des rues, des parcs, en donnant des noms de personnalités locales. Comme nous, on casse des statues pour contester la colonialité qui est encore présente. Oui. Voilà. Donc alors, maintenant, sur la question de la République, si vous voulez, c'est l'idée qu'on veut désormais que notre chef d'État, même symboliquement, même s'il n'a pas beaucoup de pouvoir, hein, le chef de l'État, le président dans ces territoires n'a pas de pouvoir, c'est le Premier ministre qui a du pouvoir. C'est comme en Angleterre. En Angleterre, la couronne britannique n'a pas de pouvoir politique. C'est le Premier ministre qui a du pouvoir. L'idée, c'est qu'on veut quand même que nos décisions, même symboliques, soient prises et signées par quelqu'un de chez nous, plutôt que signées par un représentant de la Grande-Bretagne. C'est ça, à mon avis. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour.
Dans le fond de la salle, on n'a pas bien entendu, mais une question vient d'être posée sur l'existence même du Code noir qui n'a toujours pas été abrogé.
Peut-être que le juriste pourra mieux préciser ces choses, mais ce que je retiens de cette histoire, c'est que le Code noir, même s'il existe, il n'a pas d'effet. Avec l'abolition de l'esclavage, le Code noir, par la même occasion, est aboli. Donc juridiquement, ça n'a pas d'effet. Quand on dit que le Code noir existe, alors c'est que symboliquement il est là, mais ça ne sert à rien. Il n'y a pas de décisions qui sont prises conformément au Code noir. Et là encore, c'est du symbolique. Symboliquement, il faut peut-être l'éliminer, mais dans les faits, le Code noir n'a aucun effet.
C'est très symbolique, en fait, dit Fred Reynaud, parce qu'il y a une loi qui dit que l'esclavage est aboli. Juridiquement, l'esclavage est aboli, donc ce qui soutenait l'esclavage, c'est-à-dire le Code noir, ne peut plus rentrer en fonction, ne peut plus exister. Et c'est la symbolique, en fait. Quand on parle de l'existence du Code noir, c'est vrai, il existe dans les textes français, mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas la rétablir comme ça.
Nous avons les pays anglophones qui ont visiblement une relation, je dirais, plus cordiale et pacifique avec la Grande-Bretagne. Quand on compare à nous, on a l'impression que c'est plus conflictuel. Alors ma question, c'est finalement, d'où vient finalement cette différence de rapport? Est-ce que c'est parce qu'eux n'ont pas eu le Code noir? Est-ce que c'est parce que ça a évolué autrement? D'où vient cette différence de rapport qui fait que peut-être qu'il y a quelque part aussi, on parle de différence et de ressemblance entre nous dans la Caraïbe, qui fait aussi que finalement on a du mal à aller vers une évolution positive, alors qu'on sait très bien que, on dit certaines fois, on adore détester être français. Donc on est quand même content de notre situation. En même temps, il y a toujours une opposition qui quelque part nous empêche d'aller dans une évolution qui pourrait être salutaire.
C'est une vraie question de la différence entre les anglophones et les francophones qui expliquent les différences de trajectoire. Moi, ma réponse et mon hypothèse, en fait, c'est la culture politique. La culture politique, le modèle étatique français se construit d'une manière particulière, d'une manière centralisatrice, alors que le modèle anglais, il est beaucoup plus autonome. L'État en France, dès le début, c'est le centre de tout. L'État régule la société. L'État régente la société. En Angleterre, c'est pas ça. L'État est quasi absent en Angleterre. C'est le marché qui régule la société. C'est le business. Alors, appliqué aux colonies, en France, au nom des valeurs de la République, au nom de l'universalité, au nom de l'universalisme républicain, dès 1795, on met en place un département. Le département n'est pas né en 1946. Il existe depuis 1795, bien sûr. Il a disparu en quelque temps. Mais le directoire met en place la première formule de département. Alors pourquoi ? Parce que la Révolution considère qu'il faut que tous les sujets deviennent citoyens. Ce n'est pas le problème des Anglais. Les Anglais, c'est du business. Ils viennent, ils partent. Rien à prendre. Comme je le dis la dernière fois, la France vient, elle reste. Pourquoi elle reste ? C'est parce que la culture politique française repose sur l'idée que la France apporte la civilisation. Que par conséquent, on va vous civiliser, on va vous franciser, on va vous assimiler. 46, c'est ça. Alors, il y a déjà 1848 avant. En 48, c'est la citoyenneté. On devient citoyen en 48, nos députés, c'est en 48. Et puis après ça, il y a la départementalisation où on nous octroie l'égalité sociale, en tout cas, sur le principe. Vous voyez, ce cheminement fait que la France, elle est centralisatrice, mais elle aussi, elle procure de la sécurité. Vous voyez bien que pourquoi en 1946 nos élites demandent l'assimilation alors que les élites britanniques ne demandent pas l'assimilation. Pourquoi ils ne demandent pas l'assimilation, les Britanniques? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. L'Angleterre ne propose pas l'assimilation. Les Français proposent l'assimilation et nous l'acceptons, nous la revendiquons, nous battons pour y rester. L'assimilation, ce n'est pas la France qui nous l'impose. L'assimilation, c'est d'abord une revendication locale et puis c'est une acceptation ou un partage de volonté de la France. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on a du mal à en sortir. Même ceux qui contestent la politique française sont attachés à l'égalité sociale. Je dis même ceux qui, même indépendantistes parfois, hein, qui ont un discours, mais je peux comprendre ça, parce que ce n'est pas facile d'en sortir. Et comme je le disais la dernière fois, un de mes professeurs de sciences politiques qui m'a expliqué ça, il m'a dit, écoutez, mais pourquoi vous vous posez ces questions? Vous avez des Antillais à qui on propose de la protection sociale, de l'égalité sociale, même si elle n'est pas parfaite, et vous voulez penser qu'ils vont refuser. Donc, ça veut dire quand même que cette assimilation, elle est dangereuse néanmoins. Pourquoi elle est dangereuse? Parce qu'elle vous met dans des positions d'irresponsabilité. C'est pas nous qui décidons, c'est l'État qui décide de tout. Et on fait tout pour l'État décider à notre place. Les Anglais, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous, en 1946, on entre profondément dans l'assimilation, les élites anglaises sont déjà dans l'autonomie locale. Je prends un exemple encore pour terminer. Observez bien au plan administratif ce qui se passe. Nous avons une organisation administrative d'un département et d'une région française. En Angleterre, ils n'ont pas ça. Ils ont une organisation qui rappelle déjà le régime parlementaire britannique, avec un représentant de l'exécutif, l'équivalent d'un premier ministre, une assemblée qui est un parlement. Je ne veux pas être plus long. Je vais vous montrer qu'il y a des cultures politiques différentes qui expliquent des trajectoires différentes et puis une espèce d'emprisonnement volontaire, quoi. Une dépendance ressources. Nous avons transformé la dépendance en ressources et nous en sommes prisonniers. Mais c'est dangereux parce qu'à terme, non seulement c'est de l'irresponsabilité, mais c'est à terme de la disparition identitaire aussi.
Il y a une autre question.
J'avais lu le bouquin de Bastide.
Roger Bastide, c'est ça?
Voilà. Oui. Et en fait, il parlait de deux types de colonisation, la colonisation anglo-saxonne et la colonisation latine. Dans la colonisation anglo-saxonne, en fait, il y avait comme une ségrégation. On ne se mélange pas. Les Noirs peuvent très bien arriver très loin, mais comment dire, dans leur communauté. Et voilà, ça ne se mélange pas. Alors que la colonisation latine, on peut se mélanger, mais bon, bien sûr, chacun reste à son niveau, c'est-à-dire en fonction de la couleur de peau, bon, plus on est noir, plus on descend dans l'échelle. Donc, on se mélange, donc avec un discours très, mais non, on est tous pareils, mais en même temps, tu restes en bas. Donc, finalement, quelque chose, effectivement, comme vous dites, un peu de la vassalisation. C'est-à-dire, on est, mais on est en dessous. Ouais, voilà. Alors que peut-être que le côté anglo-saxon, finalement, peut-être à la limite, on est concurrent. Mais enfin, tu es sujet, je suis sujet peut-être.
J'apprécie beaucoup votre commentaire parce qu'en fait, ça revient pour aller vite hein, à une opposition également que je fais mais qui renvoie ce que vous dites. Les Anglais et les Français ne sont pas contre l'intégration. Ils ont deux conceptions de l'intégration. Il n'y a pas de rejet des colonies britanniques pour l'Angleterre, une forme d'intégration de le Commonwealth. En France, c'est l'intégration par assimilation. Chez les Anglais, c'est l'intégration par différenciation. Ensemble, mais différent. En France, on veut faire de nous des Français, même si c'est difficile et impossible, hein, je veux dire par la culture, etc. Mais c'est une volonté d'assimilation, de disparition des particularités. Les Anglais n'ont jamais voulu faire disparaître les particularités. Intégration par différenciation chez les Anglais et intégration par assimilation chez les Français. C'est ce que vous dites en réalité.
Autre chose qui me vient aussi, les Anglais ont gardé leur roi, et puis c'est très cordial, etc. Alors que les Français ont déchouqué le roi, mais en même temps, finalement, l'ont remplacé. Et ne cessent de s'y référer, c'est-à-dire avec toujours ce rapport de domination, de facialisation.
Pas de réponse à votre commentaire, il dit très bien.
Il y a un événement en France, on avait déporté les prêtres. On les avait mis dans les cales de négriers. C'est-à-dire qu'on les avait mis en position d'esclaves, de vivre... Et donc, enfin, moi, je me suis dit, en fait, c'est comme un retour de bâton de la faute de l'Église, hein, de cette fée complice et acteur même de l'esclavage. L'Église a reçu voilà, la punition, quoi. C'est-à-dire toujours...
C'est les contestataires.
On va faire un débat après. Je vais passer le micro à Julien Mérillon.
Radio Sophia 88.5, toujours plus proche de vous.
Bonjour encore à nouveau à tout le monde. Alors, je ne reprendrai pas, comme l'a fait Fred, mon historique épiscopal. Par contre, j'ai un souvenir une invitation qui m'a été faite par Abel Blanchard à l'époque pour une réunion qui se tenait en Jamaïque, où il m'avait demandé de l'accompagner pour pouvoir exposer un peu les problématiques de nos territoires. Ce qui nous avait d'ailleurs fallu un grand voyage puisqu'on était parti. Et ça va nous donner une petite idée de ce qu'est la Caraïbe. Nous sommes partis de Pointe-à-Pitre, on devait faire une escale à Saint-Martin, ensuite se rendre en Jamaïque. Lorsque nous sommes arrivés à Saint-Martin, l'avion pour la Jamaïque était parti. Nous sommes partis ce jour-là de Saint-Martin. Nous avons dormi à Trinidad. Et de Trinidad, le lendemain matin, nous sommes repassés sur la Guadeloupe. On a fait une escale à Antigues et c'est comme ça qu'on a pu rejoindre la Jamaïque. C'est vous dire un peu comment cette région, qui est la région Caraïbe, aujourd'hui connaît un certain nombre de difficultés. Mon propos va être beaucoup plus dans l'actualité, c'est-à-dire les tensions qui existent dans notre région et voir dans quelle mesure ces tensions nous concernent. Nous avons souvent le sentiment de dire « Ah, les bitailleux, c'est à l'extérieur. » Et là, on va voir concrètement, on n'est pas à l'abri de toute une série de choses qui se passent dans la région. Je partirai, bien évidemment, sur un certain nombre d'idées pour bien exposer. Alors, je passerai très vite sur la première partie, puisque Fred a déjà traité pour l'essentiel ce que je voulais dire. Mais je crois qu'il faut bien comprendre que notre région est un espace exposé. On est exposé, on est vulnérable et on est en quête d'unité entre vulnérabilité et dispersion. Voilà un peu pour bien comprendre dans quel espace on se trouve aujourd'hui. On n'a pas cette continuité qu'à l'Europe. L'Europe, si vous voulez, vous prenez votre voiture, vous partez en Allemagne, vous prenez votre voiture, vous allez en Espagne. Je ne peux pas prendre ma voiture et aller en Jamaïque. Je ne peux pas prendre ma voiture, ne serait-ce qu'aller en Martinique, sinon la mettre sur un bateau pour arriver en Martinique. Donc, si vous voulez, il y a cette dispersion qui est un élément extrêmement important. Vous voyez les langues qui sont parlées dans l'espace Caraïbe, l'espagnol, l'anglais, le français, le créole, le papiamento, le hollandais, les langues amérindiennes. On a une multitude de langues, de façons de s'exprimer. Je n'entrerai pas dans ces détails. Alors, aux origines du mot Caraïbe, Fred en a parlé un peu rapidement. Pourquoi on appelle ça la Caraïbe? Au départ, les Amérindiens n'appelaient pas la région Caraïbe. Les peuples autochtones ne l'appelaient pas Caraïbe. Apparemment, l'idée serait venue de l'existence de populations Kalinago, qu'on le considérait comme des cannibales. Bref, si vous voulez, qu'il est important de bien se remémorer pour nous. C'est que ce peuple initial est génocidé, il est éliminé. Et surtout, n'oubliez jamais, on ne nous a jamais enseigné en histoire, mais c'est ce fameux traité de Basse-Terre du 31 mars 1660. Le 31 mars 1660, à Basse-Terre, le sieur Well, qui est gouverneur de la Guadeloupe, réunit les gouverneurs anglais, français et des chefs Kalinago, et il décide ce jour-là qu'il n'y aura plus de Kalinago en Guadeloupe, en Martinique, etc. On leur réserve deux territoires que sont la Dominique et Saint-Vincent. Et ça, il ne faut jamais oublier cet élément-là. Pourquoi c'est important? C'est important d'abord parce que on élimine la population originelle, mais surtout, on ouvre la porte à l'esclavage. Le traité de Basse-Terre, c'est l'ouverture de la porte à l'esclavage, puisque les Amérindiens refusant bien évidemment de travailler de façon gratuite et forcée, eh bien, on va les expédier, les éliminer, et on va faire appel à cette main-d'œuvre que vous connaissez.
Nous sommes toujours à la salle paroissiale de Membridge pour cette conférence débat sur la place de la Guadeloupe dans la Caraïbe.
Il y a des tentatives de regroupement. La première, c'est la création des West Indies qui voit le jour en 1958, qui va regrouper les pays anglophones. Tous les pays se retrouvent dans cette fameuse fédération des West Indies, Jamaïque, etc., les Petites Antilles. Seulement, la fédération des West Indies ne va pas aller très loin, puisqu'elle voit le jour officiellement le 3 janvier 1958 et elle est dissoute au mois de mai 1962, soit 4 ans plus tard, en raison de dissensions qui existent en son sein. Il va y avoir une autre organisation qui va apparaître en 1965, c'est la CARIFTA. CARIFTA, Caribbean Free Trade Association, qui est une organisation qui a une ambition principalement économique. C'est une organisation de libre-échange. Elle n'est pas une grande activité. Néanmoins, elle nous laisse deux événements importants. Le premier, ce sont les CARIFTA Games, les jeunes de la Caraïbe qui vont chaque année s'affronter sur le plan sportif. Et l'autre manifestation, c'est CARIFESTA, qui est une organisation culturelle, artisanale, qui se tient en principe tous les deux ans dans un des pays de la Caraïbe. Voilà ce que va nous laisser CARIFESTA. Il y a actuellement l'organisation principale qui est la CARICOM, Caribbean Community, qui a été créée le 1er août 1973 et qui regroupe aujourd'hui 15 pays et qui, bien évidemment, essaie d'avoir une approche un peu plus commune. Nous allons revenir tout à l'heure sur l'état actuel de la CARICOM et les dissensions qui sont apparues en raison précisément des tensions géopolitiques. Et plus proche de nous, on a l'OICS, l'Organisation des États de la Caraïbe de l'Est, ou Caraïbe orientale, comme on dit, qui a été créée en 1981 et qui regroupe les petits États. Il faut bien comprendre que ces petits États ne pouvaient pas avoir chacune une monnaie, ne pouvaient pas avoir chacun une justice. Ils vont par conséquent se mettre d'accord pour avoir une monnaie commune. Aujourd'hui, si vous allez en Dominique, à Antigua, à Saint-Vincent ou à Grenade, vous allez utiliser la même monnaie qui s'appelle le ICI, Eastern Caribbean Dollar. C'est cette monnaie commune aujourd'hui que l'on va retrouver dans ces différents pays. Et de même, sur le plan judiciaire, ils ont créé une Cour suprême qui leur permet de faire l'économie de petites cours qui sont réparties sur les différents pays. D'autant plus que tous ces pays, si vous voulez, sont dans la même tradition juridique et juridictionnelle, c'est-à-dire un droit qui est fondé principalement sur la jurisprudence. C'est l'héritage anglophone et c'est sur cette base-là que, bien évidemment, ils vont fonctionner. Alors, plus largement, et Fred en a parlé, il y a l'Association des États de la Caraïbe qui va regrouper la Grande Caraïbe. Autrement dit, on va y retrouver les îles, certes, mais on va y retrouver aussi toute la partie continentale qui font partie donc de cette association qui est composée de 25 membres et qui est essentiellement une association de coopération. Analyse des tensions actuelles, nous avons vu cette Caraïbe qui cherche à s'unir, mais qui en même temps est très dispersée. Cette Caraïbe qui est vulnérable. Je prends un exemple. Aujourd'hui, la Dominique, c'est 60 000 habitants à peu près. Une armée qui est composée de 200 à peu près personnes qui peuvent défendre. Que peuvent-ils faire face aux États-Unis? Je vous pose la question. Et c'est simple. Idem pour Sainte-Lucie, idem pour la Grenade. On a ces dimensions, cette exposition, cette vulnérabilité de ces pays de la Caraïbe. Et ça, c'est l'une des caractéristiques dont il faut savoir tenir compte. Vis-à-vis des Caraïbes, comment se positionne le grand voisin états-unien, pour reprendre l'expression de Fred, les États-Unis, comment se comportent-ils? Au départ, ils considèrent que la Caraïbe, c'est « the backyard ». Traduction en français, c'est l'arrière-cour. Ils ont toujours considéré que c'est leur arrière-cour. C'est même pas la cour, hein. La cour, c'est là où vous avez votre petit jardin, vous y mettez rasier, etc. L'arrière-cour, c'est derrière, c'est là où vous jetez vos ordures. Eh bien, c'est exactement dans cette vision que se situent les États-Unis par rapport à la Caraïbe. Et pour cela, il y a une doctrine qu'on appelle la doctrine Monroe. Mr. James Monroe est président des États-Unis. En 1823, va développer une théorie, l'Amérique aux Américains. Et là, j'en reviens à ce que disait Fred. Quand Monroe parle de l'Amérique aux Américains, ce n'est pas tous les Américains depuis l'Alaska jusqu'à la pointe de feu au Chili. C'est l'Amérique aux États-Unis. C'est l'Amérique sous l'hégémonie américaine, l'hégémonie états-unienne. C'est ça la doctrine Monroe. Autrement dit, faire de l'Amérique, le gendarme quasiment de toute cette dimension, ce qu'on appelle la dimension hémisphérique. Donc, c'est ce qui va être extrêmement important. Et cette doctrine, qui au départ est une doctrine dite de protection, les États-Unis veulent se protéger contre les interventions de l'Europe, parce qu'elle est destinée dans un premier temps à l'Europe, pour dire que l'Europe n'a plus à intervenir dans les affaires américaines. C'était le temps de la colonisation, certes, mais ça c'est fini. Maintenant, laissez-moi m'occuper, moi Monroe, laissez-moi Washington, laissez-moi United States of America, laissez-moi m'occuper de l'Amérique. Voilà l'essence même de cette doctrine. Et donc on passe de cette position de protection à une position de domination. Et on va voir toute une série d'interventions, je reviendrai là-dessus. L'actuel président a décidé que Monroe n'était pas assez puissant. Et il a transformé la doctrine Monroe en doctrine Donoro. Donald Trump et Monroe, c'est-à-dire faire qu'ils soient aussi, si vous voulez, quelque part à la source de cette vision américaine, de cette conception états-unienne. Alors, les interventions américaines dans la Caraïbe, je vous donne quelques exemples. La première, c'est 1898 à Cuba, au moment de l'indépendance par rapport à l'Espagne. Les États-Unis vont intervenir. Ensuite, en 1912 au Nicaragua, 1915 en Haïti, 1915 au Mexique, Guatemala, etc. Le 17 avril 1961, la fameuse intervention à Playa Criron, qu'on appelle la baie des cochons, en République de 1965, et surtout en Grenade 1983, et au Panama 1989. Pourquoi 1989 ? C'est l'année où ils vont, exactement comme ils l'ont fait pour Nicolas Maduro, ils vont exfiltrer le président d'alors qui s'appelle Manuel Noriega. Donc c'est une longue histoire d'intervention des États-Unis. C'est une approche des relations qui est basée essentiellement sur la force. À Grenade, Maurice Bishop prend le pouvoir en 79 avec le New Jewel Movement. Il a une nouvelle vision de la démocratie. Et Bishop, donc, a des relations assez étroites avec Cuba. Il essaie de développer une autre forme de démocratie. Et à l'occasion de tensions internes à l'intérieur du gouvernement, certainement provoquées par l'extérieur, il est assassiné et les États-Unis vont donc intervenir à Grenade le 23 octobre 1983. L'actuel président, lorsqu'il arrive au pouvoir, va avoir un certain nombre de cibles. La première cible, c'est le canal de Panama. Ce canal, qui a été mis en service en 1914, a été jusqu'au 31 décembre 1999 sous autorité états-unienne. Il y avait ce qu'on appelait la zone du canal, qui était une zone états-unienne où les Panaméens n'avaient pas le droit d'entrer. Et c'est à l'issue des accords Terry Cross et Carter que l'on va, le 31 décembre 1999, remettre le canal aux Panaméens. Mais en remettant le canal aux Panaméens, les Panaméens ont organisé la gestion. Et bien évidemment, l'une des problématiques, c'est qui aujourd'hui utilise le plus ce canal, qui a un certain nombre d'intérêts dans ce canal. Eh bien, la Chine occupe une position extrêmement importante. Et ça, eh bien, ça provoque des cauchemars à l'intérieur, si vous voulez, de la chambre qui se situe à droite du bureau de la Maison Blanche. Et là, effectivement, eh bien, il y a cette volonté. Et il dit, le canal de Panama, c'était seulement au Panama de le gérer, pas à la Chine, ou à qui ce soit. Nous ne laisserons jamais tomber entre de mauvaises mains. Voilà comment réagit l'actuel président des États-Unis. Et lui, il dit, si le Panama n'est pas en mesure de garantir le fonctionnement sur efficace, nous exigeons alors que le canal de Panama nous soit restitué en totalité, sans discuter. Et par l'intervention de Marco Rubio, qui est son secrétaire d'État à la Défense, ils vont reprendre un certain nombre de positions dans le canal, mettre une société de Hong Kong qui va racheter un certain nombre d'actifs qui appartenaient à la République populaire de Chine, et ainsi reprendre une certaine forme de contrôle sur le canal. La deuxième cible, c'est le Venezuela. Tout simplement parce que la révolution bolivarienne, qui va durer de 1997 à 2006, du temps de Hugo Chavez, va avoir pour conséquence deux choses. La première, elle va nationaliser quasiment ou le pétrole. Or, on sait que le Venezuela, c'est l'une des réserves les plus importantes au monde de pétrole. Or, ne voilà-t-il pas qu'on a une réserve importante de pétrole qui n'est pas très loin des États-Unis et qui échappe aux États-Unis. Le souci, c'est de récupérer tout cela, ça c'est clair. D'autant plus que Hugo Chavez avait eu l'opportunité de créer deux structures qui ne plaisent pas du tout aux États-Unis. C'est l'Alliance bolivarienne pour les Amériques, qui est le pendant de ce qu'a été pendant un certain temps l'OEA, et donc où il y a une autre approche loin de la mainmise américaine, et surtout le PGEP Petro-Caribé, qui permettait de vendre du pétrole aux pays de la Caraïbe à des prix qui sont inférieurs aux coûts mondiaux, et notamment qui permettait de fournir à Cuba un approvisionnement en pétrole. Donc c'est tout cela que les États-Unis ne veulent pas. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, le 3 janvier 2026, pour arriver à cette fin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement décréter que, première étape, le gouvernement est lié au narcotrafic. Deuxièmement, que le narcotrafic, c'est du terrorisme. Et comme c'est du terrorisme, donc il faut bien évidemment éliminer cela. Et c'est ainsi que les troupes américaines vont débarquer le 3 janvier. Le bilan, on le connaît, 32 militaires cubains tués, 23 Vénézuéliens, et bien évidemment l'exfiltration du président et de son épouse aux États-Unis, tout comme il l'avait fait auparavant, je l'ai dit, pour Manuel Noriega au Panama. Alors, les prochaines cibles. Évidemment, dans le viseur de Trump, ben, il y a toujours cette idée, il faut renverser Cuba. C'est son obsession. Il faut faire tomber l'actuel régime cubain. L'autre obsession, le président de la Colombie devrait faire attention à son cul. Menace Donald Trump, avec le langage fleuri qu'on lui connaît, évidemment. Au-delà de la Colombie, au-delà de Cuba, il y a aussi, vous le savez, le Canada. Il rêve d'en faire le 51e État. Il y a le Groenland avec les péripéties que l'on a connues ces temps derniers.
Radio Sofia Altitude.
La radio de votre cœur.
Conférence débat avec comme intervenants messieurs Fred Reynaud et Julien Mérillon sur la Guadeloupe dans la Caraïbe.
Les relations entre Cuba et les États-Unis sont très spéciales. 1898, au moment de la guerre d'indépendance de Cuba, les États-Unis vont intervenir, soi-disant pour aider les Cubains à chasser les Espagnols, mais très rapidement, ils vont s'y installer, notamment par l'intermédiaire de fameux amendement Platt, qui indique que les États-Unis doivent intervenir si jamais il y a des problèmes dans la gouvernance cubaine. Ces relations vont se gâter très rapidement à cause de la prise de position des États-Unis, 17 avril 1961, débarquement de la baie des Cochons, qui va être un échec pour les États-Unis, parce que bon, les troupes qui avaient été dépêchées n'ont pas réussi à prendre Cuba et n'ont pas réussi surtout à tuer Fidel Castro, puisque c'était l'objectif. L'autre symbole, c'est évidemment Guantanamo. Guantanamo, c'est une base qui est au sud-ouest de Cuba, où les États-Unis y ont installé une base militaire qui est actuellement de 117 600 km2. Et où, bien évidemment, il y a un certain nombre d'activités propres aux États-Unis. Alors, au départ, c'était strictement militaire. Ensuite, ça a servi de prison. Et aujourd'hui, la base de Guantanamo sert un peu de refuge pour les immigrés que Donald Trump ne veut pas voir sur son territoire. Donc, il les expédie à Guantanamo. L'embargo est en place depuis 1962. La crise des missiles de 1962 ne va pas arranger les choses. L'URSS avait installé quelques petites fusées dont on pensait qu'elles pouvaient atteindre assez facilement les États-Unis. Cette crise des fusées va aiguiser. Depuis donc, il y a une vraie tension. Le seul à avoir essayé d'assouplir un peu les choses, ce fut Obama. Il a rétabli les relations diplomatiques, il a assoupli, mais il n'a pas été en mesure de mettre fin à l'embargo. Et aujourd'hui, le renforcement des sanctions, c'est mettre Cuba à genoux, l'asphyxier, d'où l'interdiction de la coopération médicale. Là où il y avait des médecins cubains, on leur demande de rentrer chez eux. Et s'ils ne rentrent pas, eh bien, les États-Unis vont mettre des taxes sur les pays qui emploient des médecins cubains. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sanctions contre les pays qui envoient des étudiants à Cuba. Interdiction d'aller se former à Cuba. Là encore, pareil, des sanctions qui vont tomber sur les pays. Et enfin, sanctions contre les pays qui livrent du carburant à Cuba. On est dans une logique d'étouffement total. Alors, il y a des états qui sont clairement affichées. Le 16 mars 2026, Trump a dit, vous savez, j'ai toujours entendu parler des États-Unis de Cuba. Est-ce que les États-Unis vont enfin agir, à se déclarer? Et dit, je crois que j'aurai l'honneur de prendre Cuba. Que je la libère, que je la prenne, que je pense pouvoir en faire ce que je veux. Pourtant, la société internationale a, depuis 1992, clairement affiché à l'ONU son opposition à l'embargo, son opposition à toutes les mesures qui avaient été prises à l'encontre de Cuba. Encore plus récemment, à l'ONU, 185 ont voté pour l'arrêt de l'embargo. Il y a 196 membres à l'ONU. Les États-Unis n'entendent rien. Et deux personnes qui ont voté pour le maintien de l'embargo, c'est bien évidemment les États-Unis et Israël. Vous comprenez bien les raisons de tel vote. Alors, l'un des éléments importants pour bien comprendre cette géopolitique et comprendre ce qui va nous concerner, ce sont les frappes aveugles dans la mer des Caraïbes. Il n'y a pas longtemps, à Saint-Vincent, un groupe de pêcheurs saint-viciens a reçu une frappe de la marine américaine. Tout le monde a disparu, y compris le bateau. Alors si j'en parle, c'est bien pour dire qu'on n'est pas là dans la zone de conflit. On est à Saint-Vincent. On n'est pas au Venezuela, on n'est pas au large de Cuba. On est à Saint-Vincent. Et les pêcheurs, ce sont des pêcheurs de Sainte-Lucie. Ce qui veut dire concrètement, et je vous laisse deviner, c'est que nos pêcheurs aujourd'hui peuvent à tout moment être victimes de pareilles, si vous voulez, attaques de pareils fonds. Je vais vous donner un seul exemple. Lorsque le cyclone Melissa a frappé la Jamaïque, c'était en octobre 2025, je suis allé voir un armateur, puisqu'il y a des gens qui voulaient faire des emplois, des offres de produits médicaux, alimentaires ou autres. Et l'armateur m'a dit, comment ? Alors, Mérion, tu crois que maintenant je vais prendre mon bateau pour l'envoyer en Jamaïque ? Avec ce qui se passe là, je ne peux pas exposer ni mon bateau, ni les matelots à cette folie qui existe, parce qu'on tire sur tout ce qui bouge. Et on peut tirer sur mon bateau. Jusqu'où ça va, vous voyez, même pour des actions qui seraient des actions humanitaires, aujourd'hui, eh bien, on ne peut plus les mener en raison des difficultés ainsi constatées. L'impact de la politique américaine sur les Caraïbes, terrible. Le tourisme prend un coup, évidemment, alors même si ça se relance un petit peu ces jours-ci. La Caraïbe, qui était une zone de paix, devient une zone de conflit. Eh bien là, aujourd'hui, cette zone de paix est devenue une zone de conflit. Et il y a une division qui est instaurée entre les pays de la Caraïbe. La première ministre de Trinidad et Tobago, Madame Kamla Pissar-Bissar, s'est mise derrière Trump, les yeux fermés, et elle applaudit à tout rompre, à tout ce qui est fait, ce qui a entraîné, bien évidemment, des dissensions à l'intérieur de la CARICOM. Et la CARICOM est aujourd'hui affaiblie au point qu'elle demande qu'on puisse chasser la secrétaire générale Carla Barnett, qui est d'origine guyanaise, et elle demande que tous ces gens-là, on les évite. Il faut mettre des gens de Trump dans CARICOM pour que ça fonctionne, selon elle, bien. Donc, on voit qu'il y a une volonté réelle de faire en sorte qu'on puisse véritablement appliquer cette politique américaine. Et les autres pays sont contraints à des concessions.
Radio Sofaya, la Caraïbe en altitude. Sofaya altitude.
Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous reviendrons la semaine prochaine pour le deuxième volet de cette émission. Car, allez, à très bientôt. Qui ne mérite pas mourir. Fosse.
Retrouvez chaque samedi 10h sur Radio Sofaya Altitude l'émission Justice et Paix, animée par Domi.
École, catéchisme à Saint-Rosemène.
Oui, nous étions au catéchisme au bout le mardi.
Une émission en partenariat avec Radio Bansabiel. Justice et Paix donne la parole au monde associatif, politique, social, sportif, culturel.
Je crois qu'il faut quand même que les on puisse remettre l'agriculture aux mains des enfants.
Le sport est un vecteur de relations sociales.
Justice et paix, les problématiques sociétales avec une vision chrétienne.
Et aussi marcher aussi vers Dieu, marcher vers un idéal, marcher c'est un but.